Alors, comme vous le savez, je suis dans un suivi de l'évangile de Matthieu. Et dans l'évangile de Matthieu, il y a des versets, waouh, c'est superbe. Il y a des passages en agore. On se dit, ben oui, c'est des messages faciles à exprimer, donc faciles à dire. Et puis il y en a d'autres, et j'avoue franchement, quand on y arrive, on se pose certaines questions. Seigneur, tu veux vraiment que je dise à l'Église hypocrite? Tu veux vraiment que je parle de l'hypocrisie du 21e siècle? Parce que quelque part, la parole, elle est là pour nous instruire, n'est-ce pas? Si le Seigneur a laissé ce genre de passage dans la parole de Dieu, c'est que quelque part, le Seigneur veut notre instruction. Et on doit confesser parfois que, avec certains passages de la parole de Dieu, on est en pleine lutte. Et personnellement, je dois le confesser que j'étais en pleine lutte avec ces passages-là. Mais, en même temps, le Seigneur me demande de prêcher toute la parole, de ne pas faire comme certains font, ben voilà, ça je vais prêcher parce que je vais me sentir à l'aise. Et quand on fait la continuité d'un passage de la parole de Dieu, eh bien, on doit prêcher tout le conseil de Dieu. Alors je vais essayer d'être sage, j'ai déjà demandé la sagesse à Dieu ce matin, avant de venir, pour prêcher ce que nous allons lire ce matin dans ces quelques versets. Le Matthieu chapitre 23, c'est le dernier message public de Jésus-Christ. Et nous voyons que dans ce passage, il y a trois grands moments, je dirais, où Jésus va dénoncer publiquement la fausse religion. Et il y a bien sûr des cibles qui sont données là. Vous allez voir assez rapidement, au début du chapitre, que Jésus va cibler les scribes et les pharisiens, et que ces scribes et pharisiens vont revenir dans le chapitre, dans la continuité, parce que ces personnes prétendaient être certaines personnes religieuses, et dans le fond, elles n'étaient pas si réellement que cela. Et Jésus va les dénoncer. Et je pense que nous avons besoin parfois de nous le rappeler. Nous ne sommes pas des êtres parfaits. Et que parfois le Seigneur est obligé de mettre le doigt sur notre cœur. Parfois le Seigneur est obligé de mettre le doigt sur notre cervelle. Et de nous dire gentiment, change, cette attitude ne me glorifie pas. Cette situation, c'est pas comme cela que je pense que tu devrais être en tant que chrétien. C'est pas comme cela que je voudrais que tu sois en tant qu'être humain sur cette terre. Alors c'est vrai, Jésus va dénoncer la fausse religion de l'époque, et il va taper fort, puisqu'il va leur dire exactement ce qu'ils étaient dans leur cœur, ce qu'ils étaient dans leur vie. Ils avaient une apparence de piété, ils avaient une religion de parade, mais dans la réalité, ils ne mettaient pas en pratique ce qu'ils étaient en train de vivre. Alors je voudrais quand même, au début de ce message, dire simplement, tous les scribes et tous les pharisiens n'étaient pas des hypocrites. Je voudrais quand même vous rassurer, ils n'étaient pas tous des hypocrites. Vous avez quelques exemples dans la parole de Dieu qui en parlent. Par exemple, Nicodème. Nicodème faisait partie du Sanhédrin. Il est venu discrètement, c'est vrai, la nuit, pour voir Jésus, mais il faisait partie du Sanhédrin. Il se posait quand même certaines questions par rapport à cet homme qui s'appelait Jésus, qui voyait des choses extraordinaires de sa part, mais il avait quand même besoin d'entendre plus de détails vis-à-vis de ce personnage. Il a dû sûrement garder le silence jusqu'à la résurrection, mais la parole de Dieu nous rappelle qu'on va le revoir à deux autres reprises, si j'ai bien souvenir. Vous avez dans l'évangile de Jean un certain Joseph d'Arimathée. Pareil, il faisait partie du Sanhédrin. Jean chapitre 19. Vous avez un homme aussi qui est nommé dans l'évangile de Marc, mais lui on ne le dit pas, qui était-il? Et vous avez même un certain Gamaliel qui témoigne d'une grande tolérance envers l'Église nouvellement formée. Il aurait pu la critiquer, l'Église, il aurait pu même dire certaines choses, quoique ils l'ont persécuté quand même, mais quand même cet homme a manifesté quand même une certaine tolérance. Laissons faire, on verra bien ce qu'il va se passer. Alors ces pharisiens étaient bien sûr issus de la religion de l'époque, elles devaient manifester la religion de l'époque, elles devaient, je dirais même, conduire les juifs, ceux qui étaient bons ou pas bons, ceux qui étaient purs ou pas purs, mais dans leur pratique, malheureusement, ils faisaient tout le contraire de ce que Dieu leur demandait de faire dès le départ. Et Jésus va les cibler. Alors nous allons regarder un petit peu comment Jésus les a ciblés. On va lire les 12 premiers versets. Et si vous revenez la semaine prochaine, malheur à vous parce que je continuerai dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23. Alors si vous ne voulez pas entendre de ma bouche, ben vous irez qu'à aller sur le site internet parce qu'on va enregistrer le message la semaine prochaine. Voilà, je voulais en tout cas faire ce suivi ce matin. Lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 23, les versets 1 à 12. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faisant donc et observez tout ce que je vous dise, ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas le remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. On va juste s'arrêter là. Alors Jésus va dénoncer des faits et il va expliquer d'abord à la foule. Et ensuite, il va aller un petit peu plus dans le détail, on le verra la semaine prochaine. Alors la première grande partie, c'est les 12 premiers versets, l'explication à la foule. Jésus va expliquer quels sont les défauts de ces hommes qui se prétendaient être des personnes qu'en réalité, elles n'étaient pas dans leur forme. Premier défaut de ces personnes, ils ont une fausse conception de la justice. Qu'est-ce que le Seigneur voulait entendre par les scribes et les pharisiens ont assis dans la chair de Moïse? L'Écriture ne rapporte nulle part que Dieu leur aurait donné une quelconque autorité. La seule autorité qu'ils avaient, c'était d'enseigner la parole de Dieu. Mais quand on regarde un petit peu dans le détail, et quand on analyse un petit peu ce que le Seigneur est en train de leur reprocher, c'est que ces pharisiens avaient rajouté à la Bible toutes sortes de règles et de traditions qui étaient élaborées de leur part, en disant quelque part, oui, la Torah, d'accord, mais le Talmud est plus important presque que la Torah. Donc ils avaient rajouté toutes sortes de lois, de règles, en prétendant que ben, c'était Dieu qui les avait placés là, et qu'ils avaient toute l'autorité de Dieu, et que grâce au fait qu'ils avaient l'autorité de Dieu, eh bien, ils prétendaient des choses qu'en réalité eux-mêmes ne mettaient pas en pratique. Jésus va même le dénoncer, regardez ce qu'ils vont faire dans leur histoire de placard, hein, verset 23 du même chapitre. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice et la miséricorde et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Vous devez payer la dîme de la nette, de la menthe, mais n'oubliez pas d'être dans la miséricorde. N'oubliez pas d'être dans l'amour. Vous savez ce verset, ce passage que nous trouvons dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 13, où quand on y est dans ce chapitre, on se dit, ouais, vivement que j'y passe, afin de passer au passage du 14, du 15, parce que bien souvent, quand on lit que l'amour est sans hypocrisie, que l'amour, au départ, on se dit, waouh, ouais, vivement que je passe ce chapitre à autre chose. Mais la Bible, elle est là pour nous enseigner, pour nous instruire, et pour nous rappeler que nous avons parfois de belles idées par rapport à l'Église. Que parfois on a de belles idées par rapport à ceci ou à cela, et bien souvent le Seigneur est obligé de mettre le doigt là où ça ne va pas dans notre vie. Première leçon, du temps des prophètes et du temps de Jésus, des faux chefs spirituels prenaient la place de l'autorité de Dieu. Et Dieu ne leur avait pas du tout donné l'autorité de Dieu. Mais vous savez, aujourd'hui, dans l'Église du XXIe siècle, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Beaucoup de personnes se prétendent être dans l'autorité de Dieu, et Dieu ne leur a pas du tout donné quelle que ce soit comme autorité. Et je pense que parfois nous devons vraiment prier. Je trouve dommage que parfois aujourd'hui dans notre siècle, on va dans une église sans forcément dire ou demander au Seigneur, « Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que j'aille dans cette église ? Est-ce que c'est ton plan ? Est-ce que tu veux vraiment que je m'engage dans cette église ? Est-ce que tu veux vraiment que je participe à cette église, que je serve dans cette église ? Est-ce que cette église, elle est biblique ? Est-ce que cette église, elle est à la lumière de la parole de Dieu ? Parce que soyons honnêtes, bien souvent, on va dans l'église parce qu'il y a une bonne chorale ou bonne musique. On ne va pas forcément dans une église parce qu'il y a un bon prédicateur qui prêche la parole de Dieu. Combien de fois ai-je écouté des prédicateurs qui n'enseignent pas du tout la Bible et qui ne l'apprennent même pas la Bible ? Alors, ou ils ont peut-être oublié le livre à la maison, ou ils ont peut-être la Bible sur leur smartphone, ou sur leur tablette, je ne sais pas. Mais combien aujourd'hui prêchent au nom de Dieu, et Dieu ne leur a pas donné du tout l'autorité. Que nous puissions prier pour nos églises du 21e siècle. Nos églises, malheureusement, parfois, et je prie pour la nôtre, pour cette Marolles-sur-Seine, qu'elle ne s'éloigne pas de ce livre d'autorité, que vraiment la Bible reste le livre que nous ne laissons pas dans une bibliothèque, mais qu'il soit notre livre où nous mettions à la première place. Seigneur, fais que je pratique ce livre. Seigneur, fais que ce livre ne reste pas uniquement dans ma cervelle, mais fais que je le pratique réellement dans le quotidien, que mes enfants voient que je pratique ce livre, que ma famille, mes parents, mes amis, mes collègues, mes voisins voient que je pratique la parole de Dieu, que les gens qui sont autour de moi voient que je pratique la parole de Dieu. Deuxième défaut de ces personnages, c'est le verset 4. Ils avaient une fausse conception de leur ministère. Ils imposaient des lois sur le peuple et augmentaient le fardeau. Ils rajoutaient des fardeaux sur les fardeaux. Il n'y avait pas assez de fardeaux. Donc, toi, tu dois porter encore davantage. Alors je vais te rajouter encore davantage. Tu n'es pas assez pur. Tu n'as pas assez de connaissances. Alors je vais te rajouter encore plus de choses sur ton épaule. Il rajoutait avec, et cette religion devenait tellement légaliste dans leur manière de penser qu'ils oubliaient, je dirais, l'essentiel. Merci Seigneur, il est passé par là. Et Jésus a dit, moi, mon fardeau, il est doux et léger. N'écoutez pas ces hypocrites, parce qu'ils vous mettent des fardeaux et ils ne les vivent même pas pour eux. C'était devenu des dictateurs religieux hypocrites. Vous savez, c'est difficile parfois d'entendre cela, mais ce sont des personnes qui disaient des choses qui mettaient des fardeaux sur les autres, mais dans le fond, ils ne les vivaient pas. À l'époque de l'Église primitive, et c'est la deuxième leçon pour nous ce matin, à l'époque de l'Église primitive, certains chefs religieux interdisaient le mariage. Faut pas vous marier. Certains le disaient, ou certains disaient, ne consommez pas ce genre d'aliments. Ou pratiquer la circoncision. Et vous le voyez dans le Nouveau Testament que Paul est même obligé de rappeler certaines choses à ces personnes qui disaient des choses, mais qu'en réalité, mais nous sommes libres en Jésus-Christ, on n'a plus besoin de ce genre de choses. Mais au XXIe siècle, est-ce que vous pensez que l'être humain a changé? Pas du tout. Ça serait trop beau, n'est-ce pas? Qu'au XXIe siècle, l'homme ait évolué dans sa manière de penser. Le catholicisme romain aujourd'hui interdit à son clergé de se marier. Encore aujourd'hui, au XXIe siècle. Le catholicisme romain aujourd'hui interdit de manger certains aliments certains jours. J'y étais dans l'Église catholique. Je sais ce que c'est de m'abstenir le vendredi du poisson. Enfin, il fallait manger que du poisson le vendredi pendant des périodes d'abstinence. Quand on va aux États-Unis, avec mon épouse, on aime toujours aller dans des endroits où on va être étonné, surpris. Alors chaque fois, quand on y va, quand on fait la liste des choses qu'on veut voir, alors il y a quelques années en arrière, on a voulu aller voir un ami qui était en Pennsylvanie, c'est Raymond et Carole et Ingram. Ils habitent juste à côté de la contrée Lancaster. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Lancaster aux États-Unis, en Pennsylvanie, mais si vous allez là-bas, vous allez être étonnés. Vous savez ce qu'il y a là-bas? Des Amish. Vous avez déjà entendu parler des Amish? Vous allez être surpris quand vous allez arriver là-bas. Vous allez dire, vous avez une voiture magnifique. Non. Terminez la voiture. C'est le cheval et la calèche. Vous avez l'impression de vous retrouver dans une BD de Lucky Luke quand vous rentrez dans le comté du Lancaster. Terminez l'électricité, c'est la bougie. Terminez certaines manières de se vêtir. Et il faut voir, nous avons eu l'occasion de visiter un village avec des traditions, des règles qu'ils se sont imposées durant toute leur vie et encore aujourd'hui. Les jeunes filles sont habillées en bleu et en noir avant de se marier. Une fois qu'elles sont mariées, il faut qu'elles s'habillent en noir et en gris. Et vous avez toutes sortes de règles, et même nous, avec Gabriel, on leur a posé la question, mais pourquoi vous vous êtes imposé tout ce genre de règles? Parce qu'à un moment donné, ils se sont arrêtés sur certaines choses qui sont dans l'Ancien Testament, et ils n'ont pas pris le cap, je dirais, du Nouveau Testament. Et voyez-vous, je me dis, c'est ce genre de choses que Jésus est en train de dénoncer là, c'est-à-dire qu'il est en train de leur dire, vous avez une fausse conception de votre ministère. Vous interdisez certaines choses aux autres, mais vous le pratiquez pas. Imaginez un instant. Je ne le ferai jamais. Et vous m'entendez? C'est enregistré, donc je ne le ferai jamais. Mais imaginez que je vous dise dimanche prochain que toutes les femmes doivent porter la jupe dans cette église. Tous les hommes doivent porter la jupe dans cette église. Vous allez me dire, oh, Nicolas, arrête-toi. Montre-moi dans la Bible où tu as trouvé ce genre de passage. Mais, franchement, en toute honnêteté, je connais des églises aujourd'hui qui disent ce genre de choses. Pas de bijoux. Pas de bijoux. Et encore, je suis vraiment gentil. Je n'exagère pas. Demain, vous devez porter du bleu et du noir. Parce que si vous ne portez pas du bleu et du noir, vous ne serez pas pur, vous ne serez pas spirituel. Heureusement que la mode est passée par là. On a le droit de porter ce qu'on veut. Du moment que vous soyez décent, il y a aux États-Unis une église qui dit clairement, il n'y a plus besoin de porter d'habit dans l'église. Donc ils viennent le dimanche matin tout nu. Parce qu'ils disent clairement, j'ai vu ça récemment à la télévision. Donc je dis quelque chose que j'ai vu ça récemment à la télé, mais j'avais déjà entendu dans le passé, quand je suis allé aux États-Unis, mes amis me mettent souvent au courant quand on va aux États-Unis des nouveautés. Et vous avez une église aux États-Unis qui disent, si vous venez à l'église, venez tout nu, en habit d'Adam et d'Ève. Voyez-vous, il y a bien souvent des personnes qui font ça aujourd'hui au XXIe siècle. Ils prétendent des choses qui ne sont pas dans la Bible. Et je trouve que bien souvent, on devrait dire, et je voudrais vous encourager, fuyez. Si demain on vous dit, venez tout nu à l'église, fuyez. Fuyez ce pasteur, fuyez cette église, fuyez l'enseignement qu'il est en train de vous donner. Fuyez. Troisième défaut, ils ont une fausse conception de la grandeur. Alors, quand on regarde le passage qui est donné, Ils aimaient bien être vus du peuple. Ils mettaient même des signes d'ornement pour être vus du peuple. Les fameux phylactères. Si vous allez dans la rue des Rosiers, ou même si vous allez dans d'autres rues un petit peu de tendance juive, eh bien vous avez ces personnages qui se mettent sur leur front une petite boîte avec Deutéronome chapitre 6, verset 8. Alors là, pour ça, il est dans la boîte, hein, ce texte. Ça, il n'y a pas de problème. Ils devaient porter sur leur fronton l'enseignement de la parole de Dieu. Mais ils avaient aussi ce qu'on appelle des phylactères. Donc, ils en mettaient un maximum pour être vus du monde. Mais à l'époque de Jésus, ça existait déjà. Et au plus ils en avaient, au plus ils étaient vus de... Alors, lui, il est super spirituel. Waouh, j'applaudis parce que il marche selon la parole de Dieu, il a une apparence de piété. Tout en noir, avec un chapeau spécial. Il enseignait, ils aimaient les places, dans les bonnes places de la synagogue. On était rigolos dans notre église, hein. On a des fauteuils qui se cassent les uns après les autres. Si vous allez aux États-Unis, vous avez des fauteuils. Enfin bon, il y a un missionnaire américain là, il pourra le dire. Hein. Mais c'est du luxe. Hein. Je dis pas qu'il y a de la pelouse dans l'église, mais il y a de la moquette pratiquement de partout. Hein. Alors je ne suis pas en train de dire de déménager aux États-Unis pour aller dans de belles églises. Non. On peut améliorer notre quotidien aussi ici. Hein. Mais voyez-vous, bien souvent, c'est l'apparence. On veut montrer. Hein. Je suis moi pasteur. Je suis moi maître. Je suis moi rabbi. Un grand homme bien connu, Albert Einstein, un bonhomme de grand savoir, a dit un jour, n'essayez pas d'être un homme qui a du succès, mais essayez plutôt d'être un homme de valeur. J'aime beaucoup, je répète, n'essayez pas d'être un homme qui a du succès, mais essayez plutôt d'être un homme de valeur. N'est-ce pas ce que nous voulons être? Être reconnu pour que nous sommes des enfants de Dieu, qui sommes des enfants de lumière, qui marchons en tant qu'enfants de lumière. Au début de mon ministère, quand je suis arrivé ici, j'ai rencontré le maire du village, monsieur l'évêque. Aujourd'hui, il va passer la main. Mais la première question que ce monsieur m'a posée, monsieur, comment je dois vous appeler? Alors, il avait deux pensées dans sa tête. La première, c'est pasteur. Mais comme il sait que certaines églises évangéliques, ça vient des États-Unis, il m'a dit, je peux aussi vous appeler révérend. Alors, c'est une pensée qui est donnée aussi, pasteur révérend. Alors, je l'ai rassuré, je lui ai dit, bon, tu peux m'appeler pasteur. C'est le titre qu'on me donne aujourd'hui. Mais il y a certaines personnes qui aiment bien les titres. Laissez-moi vous en donner quelques-uns. Si demain vous voulez écrire à un cardinal dans votre région, vous devez l'appeler son éminence. Si demain vous voulez écrire à un évêque, moi je me sens évêque ancien, selon la parole de Dieu, mais de grâce, ne m'appelez jamais son excellence. Mais c'est ce que vous devez mettre dans la lettre si demain vous voulez écrire à un évêque dans votre région. Si vous voulez écrire au pape, si vous avez l'intention d'écrire au pape, ou si vous avez l'intention d'écrire au Dalai Lama, parce que c'est exactement la même chose, il se fait appeler sa sainteté. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas dans la lettre sa sainteté, ça va partir directement à la poubelle. Si vous voulez écrire au prince de Monaco, son Altesse Sérénissime, si vous voulez écrire au Grand-Duché au Luxembourg, son Altesse Royale, il y en a qui aiment bien les titres, hein. Notre ancien président de la République, Monsieur Sarkozy, se fait rappeler régulièrement et même critique la presse, si jamais on ne l'appelle pas Monsieur le Président. Alors il n'est plus président, hein. Il n'est plus président, hein. Mais aujourd'hui, il reprend publiquement la presse si on ne l'appelle pas Monsieur le Président, Monsieur Sarkozy. Alors ça, c'est vrai que ça m'attriste. Ça m'attriste parfois d'apprendre, d'entendre ce genre de choses, mais c'est ce que le Seigneur reproche à ces personnes de l'époque. Ils se faisaient appeler père, directeur, ils se faisaient appeler rabbin, enfin ils se faisaient appeler même maître, et le Seigneur leur rappelle justement et gentiment, attention, attention, attention. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les 12 versets que je vous ai lus, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verbes. Je voudrais vous les répéter en conclusion. Ils disent et ne font pas. Ils lient, ils mettent. Ils ne veulent pas, ils font, ils aiment être vus, ils portent, et ils ont. Voilà les verbes que vous avez dans ce passage. Avant de démarrer la prédication, lundi, je suis tombé sur un proverbe. Alors, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a parlé plus par un proverbe durant cette semaine que par la parole de Dieu, parce que j'ai un peu lutté durant la semaine. Mais voici le proverbe que je voudrais vous laisser afin que vous puissiez le méditer à votre tour durant la semaine. L'orgueil, c'est comme la mauvaise haleine. Tout le monde la remarque, sauf la personne concernée. Je répète, l'orgueil, c'est comme la mauvaise haleine. Tout le monde la remarque, sauf la personne concernée. Alors c'est vrai que le Seigneur nous rappelle certains passages de la parole de Dieu, mais nous sommes tous frères. Et moi j'aime beaucoup ce... Nous sommes tous des frères et des sœurs. On n'a pas besoin de s'élever plus que l'autre. On a juste besoin de pratiquer notre vie chrétienne. On est sur le même piédestal. Et je pense que nous avons besoin de nous le rappeler, et c'est ce que le Seigneur va leur rappeler. Ils disaient certaines choses, mais en réalité, ils avaient une fausse conception de la vie religieuse. Alors, est-ce que nous avons, nous, une fausse conception de la vie chrétienne? Parce que c'est ça la question que je voudrais vous poser. Est-ce que vous avez une fausse conception de votre vie chrétienne personnelle? Je pense que ça mérite parfois de se mettre assis et de demander, Seigneur, voilà, c'est vrai que j'ai une manière de penser, une manière de prier peut-être, une manière de diriger ma vie, mais qui n'est pas du tout comme tu le veux. Alors, je ne voudrais pas dire ce matin, humilie-moi, mais quelque part, c'est la pensée que j'ai qui me vient à l'esprit. Je pense que parfois, on a besoin d'être humilié devant le Seigneur pour nous rappeler de nous remettre sur le bon chemin. Parce que, avouons-le franchement, parfois on s'en écarte. Oh, on ne va pas le faire exprès. Mais parfois on s'en écarte de ce chemin. Et je pense que nous avons besoin de nous rappeler que l'orgueil, c'est comme la mauvaise haleine. Tout le monde la remarque, sauf la personne concernée. Amen.
Amen.
Alors, amen.